Cette idée est venue de l'Évangile. Cette idée est venue depuis que je suis jeune, quand j'ai vu des familles entières qui vivaient dans la rue, les sans-abri, les pauvres oubliés par la société. Et j'ai dit, pourquoi ces personnes doivent souffrir cela? Pourquoi ils sont exclus? Eh bien, voilà qu'à 41 ans, la Divine Providence, quand j'étais malade, eh bien, la Divine Providence m'a envoyé sur une décharge. Et là, on a commencé cette aventure humaine et spirituelle que personne autour de moi, ni moi-même, je ne pensais que ça va devenir quelque chose de cette ampleur, de cette grandeur, parce qu'ils sont des milliers de personnes. Si je savais à l'époque que ça va devenir une grande ville de pauvres avec 25 000 personnes qui sont directement concernées par l'aide d'Akamatsu, plus 30 000 qui passent par an, mais je me serais enfoui. Je me serais enfoui. Mais Dieu veut qu'on avance pas à pas, jour par jour, semaine après semaine, mois après mois, année après mois. Et nous, pendant ce temps-là, on prenait force, on prenait confiance sur soi-même. Il dit, bon, on a fait un premier pas, on a vaincu ce problème. On peut faire un autre, on peut vaincre aussi l'autre, le prochain. Et on prenait force. Et à la suite, on dit, mais on peut aider les pauvres dans tous les domaines, dans le domaine de l'accueil, dans le domaine des emplois, de construire des logements sociaux, d'éduquer les enfants, de soigner les enfants, d'apporter l'eau potable, d'embellir notre ville avec la plantation des forêts, planter des fleurs, faire de notre ville belle, parce que la beauté n'est interdite à personne. La beauté, ce n'est pas un privilège des riches. Les pauvres aussi, il est beau. Quand il exprime l'art qu'il porte dans son cœur, dans son âme, et ici, les pauvres se sont exprimés. Aujourd'hui, je dis seulement merci. Merci à la Divine Providence de m'avoir choisi comme instrument de cette œuvre de Dieu. Parce que tout seul, je n'aurais jamais pu faire cela. Et je remercie tous mes frères et sœurs malagasy qui ont cru, qui m'ont fait confiance. Et qu'ensemble, nous avons pris la bonne direction. La bonne direction. J'ai autour de moi plus de 500 jeunes, des femmes et des hommes
de ce pays
malagasy qui gèrent, qui animent tout cela. Je suis fier de les avoir trouvés parce qu'ils aiment les compatriotes. Moi, je ne vais pas chercher en Europe des gens pour animer ici parce que dans chaque pays, il y a la richesse. Dans chaque pays, il y a des jeunes qui ont des talents et qui attendent que quelqu'un les appelle pour porter secours et pour animer ses propres frères. Qu'ils les connaissent bien, parce qu'ils connaissent la langue, ils connaissent la mentalité, ils connaissent les traditions, ils connaissent les mœurs. Mais il faut se faire bouger, il faut laisser l'Esprit de Dieu qui est en vous, laisser, libérez-le. Et le pape, s'il y a quelque chose qui nous amène partout, c'est cette liberté de l'Esprit de l'Évangile. Et que le pape, il dit, debout, ne restez jamais assis, ne restez jamais sans rien faire. Même si vous vous trompez, allez-y, risquez-vous pour vos frères, pour votre famille, pour vos compatriotes, pour votre patrie.
Évidemment, vous parlez de cette expérience personnelle que vous avez vécue vous-même, qui vous a poussé à faire ça. Il y a aussi une dimension spirituelle d'abord. Vous êtes religieux vous-même et il y a une poussée de l'esprit de Saint-Vincent de Paul qui vous habite quand même. Et votre famille religieuse vous a aussi soutenu dans votre œuvre.
Au début, personne n'y croyait, même pas ma communauté religieuse, la famille de Saint-Vincent de Paul. Mais bon, ils m'ont fait confiance en disant, bon, il va s'écraser contre le mur. Et voilà, la divine providence a voulu que cela puisse aller de l'avant. Je remercie ma communauté de Saint-Vincent de Paul qui m'ont épaulé jusqu'au supérieur général qui est à Rome. Maintenant, quand il a vu cette œuvre, il a dit, vous êtes une branche de la famille Vincentien. Akamatsu, c'est une nouvelle branche de la famille de Saint-Vincent de Paul dans l'action sociale. Alors ici, nous ne mettons pas à l'avance la foi, la religion. Ici, on met à l'avance la justice, la fraternité, le partage, mais qui sont l'expression de l'Évangile, qui sont l'expression la plus naturelle de notre foi. Et les évêques malgaches disent toujours, si tous les croyants, tous les catholiques, les protestants, les chrétiens de Madagascar avaient vraiment la foi profonde, il n'y aurait pas de pauvreté ici à Madagascar. Il n'y aurait pas autant de corruption. Il n'y aurait pas autant de désespoir aujourd'hui. Alors il dit, il ne s'agit pas de remplir les églises, il s'agit de vivre la foi au quotidien. Eh bien ici, Nous avons voulu vivre cela. Et ici, ce lieu où nous parlons maintenant, autrefois c'était un stade de basketball qu'aujourd'hui est devenu pour nous notre église. On ne fait plus de basket ici, mais c'est une salle polyvalente, mais pour nous c'est notre église. On a commencé à prier avec 50 frères et sœurs. Aujourd'hui nous sommes 10 000 et 75% des enfants et des jeunes. Ça veut dire que l'espoir est là. Et notre messe le dimanche ici, c'est une fête. Les enfants, quand ils viennent à l'Eucharistie, à la messe de dimanche, ils disent « on va à la fête, on va à la fête ». C'est pour cela que la liturgie, il faut la réveiller partout pour que les gens participent, pour que les jeunes participent, pour que les enfants participent, pour qu'ils ne s'ennuient pas. Il y a trop de gens qui s'ennuient aux messes, dans les messes en Europe. Voilà ce qu'ils disent les touristes qui passent ici. Et il y a 3 ans, les jours de Pâques, il y avait ici plus d'une centaine de touristes de 33 nationalités différentes et de 5 continents. J'ai crié de joie. J'ai dit, mon Dieu, merci. Que ce lieu qui était autrefois lieu de douleurs, d'exclusion, de souffrances, de violences, est devenu un lieu de rassemblement des frères et sœurs, des rencontres de tous les pays. Voilà, alors il faut se libérer. Il faut libérer l'Esprit Saint que chacun porte en soi-même.
Père Pedro, quand on voit quand même cette œuvre, on peut dire, comme vous avez dit, que c'est une œuvre de Dieu soutenue par Dieu. Mais quand on voit la réalité, on se dit, mais où est-ce que le Père Pedro trouvait des moyens pour cette construction, pour faire vivre cette communauté, pour faire vivre toutes ces familles, pour faire vivre les gens qui l'aident à travailler? J'ai vu ici beaucoup de collaborateurs qui semblent être heureux. Comment vous faites concrètement du point de vue financier?
C'est vrai que l'argent, il est aussi le nerf de la guerre. Mais nous avons commencé sans argent, mais avec la foi et la passion que nous devons tendre la main aux plus pauvres et surtout aux enfants d'une décharge. Et que Dieu ne permet pas que des enfants meurent à pète-feu dans les marchés, dans la rue, dans une décharge. Voilà, c'est commencé comme ça. Et ensuite, quand on promettait quelque chose aux pauvres, on le faisait. Et les gens disent, quand ils parlent, ils le font. Ils tiennent parole. Et ensuite, j'ai commencé à demander des aides à l'extérieur. Personne n'y croyait. Alors les aides tardaient à venir. Alors je disais, mais c'est un projet de vie ou de mort. Et me disait, attendez monsieur. J'étais, attendez quoi? Les enfants continuent à mourir. Alors je suis allé moi-même à la rencontre de frères. J'allais témoigner dans les paroisses, dans les villes, partout. Partout où on m'invitait, je suis allé témoigner. Et les gens, quand ils entendent à première voix, de première main, un témoignage qu'ils écoutent et qu'ils ont l'impression que c'est vrai, ils aident. Et ensuite, quand les gens sont venus ici, les touristes, ils disent, ici, vraiment, tous les ans, il n'y a que de nouvelles choses. Ça veut dire que l'argent, il est bien utilisé. Chaque année, il y a 100 nouveaux logements sociaux. Chaque année, il y a de nouvelles écoles. Chaque année, il y a de nouvelles maternités. Il y a des adductions d'eau. Il y a des routes, des ponts. Il y a on embellit notre environnement. On plante des milliers d'arbres. Alors les gens disent, mais ici, on travaille. Et les gens veulent participer. Parce qu'ils disent, ici, l'argent n'est pas détourné. Les gens arrivent vraiment aux plus pauvres. C'est pour cela que je remercie à toutes les gens de bonne volonté en Europe qui partagent leur salaire, un peu de son salaire, tous les mois, qu'ils les donnent pour une famille pauvre, pour un enfant pauvre en Afrique, à Madagascar. Parce que c'est notre devoir humain, d'abord humain, et ensuite chrétien, évangélique. Nous devons aider. Mais donner à ces personnes-là dont vous avez confiance. Les missionnaires, ce sont des gens qui sont tout près des plus pauvres. Quand vous aidez un missionnaire, soyez sûr, l'argent va arriver aux plus pauvres. Et je dis merci. Merci à toutes ces personnes qui donnent la dîme volontairement, qui donnent volontairement avec amour, avec conviction, parce que c'est seulement en partageant que nous allons sauver notre terre. Et si on ne partage pas, ne nous étonnons pas si la pauvreté augmente.
Père Pedro, quand je vois l'étendue de ces territoires, comment vous vous organisez, même du point de vue administratif, pour diriger tous ces mondes? Vous êtes devenu même un chef d'un grand territoire.
Sans vouloir. Nous ne l'avons pas cherché. Mais chaque fois qu'un problème se présentait, avec tous mes coéquipiers, qui sont des centaines, on pense, on réfléchit. Et on dit comment nous pouvons, nous, à notre niveau, résoudre ces problèmes. De cette famille qui est dans la rue et qui nous demande de la recevoir, on va la renvoyer dans la rue. on n'a plus de place. Mais comment on n'a plus de place? Il y a toujours une place pour une famille pauvre qui supplie de sortir de la rue. Un enfant doit aller à l'école. Il faut commencer à faire des écoles. Nous avons commencé. Ensuite, Dieu nous a mis sur une montagne où il y a beaucoup de granit. Et nous avons commencé à casser la granit et à vendre les granits pour vivre, pour recevoir un peu d'argent. Et nous avons deux carrières, dont une carrière, nous l'appelons la cathédrale. Parce que les cathédrales à Kamassou, elles se sont incrustées dans les granits. Nous avons fait un trou énorme. Et au milieu de ce trou, qu'ils ont fait avec leurs mains, avec leur courage, avec leur foi, avec leur amour pour les enfants, eh bien, nous l'appelons la cathédrale. Et trois fois par an, nous disons la messe là, pour l'Ascension, pour le 15 août et la Toussaint. Et il y a 10 000 personnes qui viennent à cette messe aussi. On se sent comme au temps de Jésus.
Point de vue organisation, ensuite, par rapport, par exemple, à l'administration politique.
Ils nous laissent faire, ils nous laissent faire parce qu'ils voient que nous nous sommes bien organisés. Nos villages, il y a des comités, il y a des gens qui se chargent de la sécurité, il y a des gens qui se chargent de l'école, de la santé.
Du point de vue administration, par rapport à l'État, ils vous laissent faire puisqu'ils savent que c'est bien organisé. Le pape vient vous visiter. Cette visite, c'est aussi une reconnaissance d'abord, puisque tous les yeux seront braqués sur l'œuvre du père Pedro, donc à Kamassou. La visite du pape, ça représente quelque chose pour vous?
Moi, je n'ai pas cette prétention de dire cela, mais à Madagascar, il y a un proverbe qui dit « Sua fianacha », tout ce qui est beau, tout ce qui est vrai, peut être réalisé partout dans le monde. Et bon, si vous, les journalistes, vous voyez qu'on a fait quelque chose de sensé, de juste, un vrai partage avec les plus pauvres qui se sont mis debout, et vous dites, mais ça peut s'exporter, ben, Dieu soit loué. Mais nous, humblement, nous disons, nous devons encore continuer, parce qu'il y a encore tant de pauvres. On ne peut pas se glorifier avec quelques batailles que nous avons gagnées à la pauvreté. La pauvreté, c'est une guerre, et cette guerre, elle dure quelquefois toute une vie.
Mais justement, la visite du pape, qu'est-ce que ça représente pour vous?
Mais c'est un encouragement, c'est un encouragement. C'est vrai, s'il vient ici, c'est parce que lui-même veut dire, écoutez, regardez ça, regardez-vous les caméras, prenez des photos, regardez les enfants, comment ils rient, comment ils sont heureux, comment ils jouent, comment ils sont simples, comment ils sont pleins de joie, comment ils vivent, avec quelle spontanéité.
Mais justement, et ça entre aussi un peu dans la ligne du pape, ce que vous faites, puisque lui aussi, il est sensible à la pauvreté, à l'injustice, à ceux qui sont un peu délaissés du monde.
Je pense que le pape, si son protocole le laisse, la liberté, ici, il se sentirait très heureux, parce qu'il serait au milieu des siens. Alors, je dis merci au Saint-Père d'être pour nous cette grâce qui nous vient du ciel et que nous appuie, qui va réconforter nos jeunes, nos enfants et nos ouvriers à la carrière, qu'ils travaillent avec un tel amour et avec un tel courage, qui sont vraiment exemplaires. Les femmes qui travaillent dans la carrière, je dis toujours que ces femmes-là, il faut écrire le mot « femme », ce sont des vraies dames qu'il faut écrire avec majuscule. Ce sont les femmes ici à Madagascar et en Afrique qui portent l'espérance. Et c'est une femme, une ouvrière de la carrière qui va saluer le pape. Nous sommes heureux que le pape est venu saluer ceux qui travaillent toute la journée, dans le froid, dans le soleil, dans la pluie. Ils sont là, ils cassent la pierre. Déjà 30 ans. Et ils sont là avec le sourire. Alors pour ces personnes-là, je dis, j'irai jusqu'au bout du monde chercher justice.
Père Pedros, est-ce que vous avez un mot de la fin et quelque chose que vous voulez communiquer quand même aux gens qui vous suivent à travers Radio Vatican? Et quel message vous pouvez donner au-delà de ce que vous vivez ici à Madagascar?
Ne perdons jamais la joie de vivre. La joie de vivre, parce que la joie de vivre, c'est l'expression de notre foi. Alors, il y a des difficultés dans la vie de chacun. En Europe, il y a des difficultés, comme à Madagascar aussi. Mais nous suivons un homme qui s'appelle Jésus et qui a vaincu toutes les difficultés et qui nous a dit que celui qui aime donne sa vie pour ceux qui aiment. Alors voilà, suivons cet homme qui s'appelle Jésus, qui est toujours d'actualité, toujours, parce que l'amour, le vrai amour, la vraie fraternité, le vrai partage ne passera jamais.